Et de retour à l'espace conférence de Geek Life, et cette fois pour une conférence très intéressante à propos des zombies, qui sera conduite par Matt et ton invité que je vais te laisser présenter.
Notre invité est un docteur, le docteur Clémentine Hoog, que l'on accueille avec vos applaudissements nourris et spontanés.
Merci, salut tout le monde.
Tu es docteur en littérature comparée, tu te passionnes pour des domaines farfelus comme la science-fiction et les zombies. Et avec toi, on va réaliser, c'est la conclusion de tout ça, que finalement on n'avait rien compris au mythe zombie. On est parti du constat cet été, il y a eu la sortie du film de Zack Snyder, dont j'ai oublié le nom, Army of the Dead, consacré aux zombies. Il y a beaucoup de zombies partout dans la pop culture, il y a un certain Walking Dead, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Il y a du Marvel zombie, il y en a un peu partout. On est dans une ère, dans une mode autour du zombie.
Alors, pour revenir sur l'idée qu'on n'avait rien compris, c'est pas forcément qu'on n'avait rien compris, mais c'est vrai que c'est une histoire assez complexe. Le zombie a une origine très très ancienne, donc oui, il y a une mode du zombie, je pense que tout le monde l'a constaté, c'est devenu un produit extrêmement mainstream, mais comme beaucoup de champs de la science-fiction finalement, c'est pas forcément une singularité là, mais c'est une histoire assez étonnante parce que ça vient d'une culture, de la culture haïtienne, et donc du vaudou haïtien, qui est issu d'un syncrétisme entre les cultures, enfin la religion catholique et les cultures d'Afrique occidentale liées à la déportation des esclaves en Haïti. Et finalement, cette figure, elle va se développer, elle va naviguer, elle va se métisser à des problématiques contemporaines avec deux grandes vagues, on pourrait dire. Le moment où la figure du zombie arrive aux États-Unis en plein âge d'or d'Hollywood dans les années 30. Une deuxième vague à partir des années, à la fin des années 60, en fait, essentiellement autour du cinéaste George Romero. Et puis depuis les années 2000, avec après les attentats du World Trade Center, après le SRAS, après des grands bouleversements tout début du 21e siècle, là ça revient en force et ça déferle sur les écrans. Et c'est ça en fait moi qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'était bon déjà j'aimais bien hein, clairement depuis longtemps, et quand j'ai vu le succès d'une série comme The Walking Dead, j'ai vraiment eu envie de creuser ce qui faisait qu'on était aussi attiré par ces personnages là.
Du coup le zombie, on est tous d'accord, c'est un groupe de créatures mort-vivantes décérébrées qui veut attaquer la société pour la manger, et si on te dit ça, tu dis bah en fait le zombie haïtien pas du tout.
Voilà, au départ le zombie haïtien donc je signale l'existence d'une petite BD super bien qui a été écrite par Philippe Charlier, qui est médecin légiste et anthropologue et qui a fait un gros terrain en Haïti pour enquêter sur les zombies et qui raconte très très bien en fait ce que c'est. Donc le zombie dans la culture haïtienne, dans le vaudou haïtien, c'est la victime d'une cérémonie rituelle. Soit une personne qui a enfreint les règles du groupe, soit qui est victime d'une vengeance individuelle et qui va être empoisonnée avec un poison neurotoxique, la tétrodotoxine, celle qu'on trouve dans les poissons globes, qu'on connaît aussi au Japon, mais qu'on trouve aussi en mer des Caraïbes. Et donc qui est une drogue neurotoxique qui va paralyser la victime, la rendre complètement apathique, ralentir les battements de cœur, ce qui fait qu'elle a l'air morte. Et elle est enterrée vivante et elle reste comme ça apathique, elle ne réagit plus, elle ne fait qu'obéir aux ordres. Et en Haïti, donc, le zombie, les victimes en fait, de cet empoisonnement se trouvent enrôlées, enfin, deviennent des esclaves, notamment les exploitations de canne à sucre. Mais ça encore jusque très récemment, hein, parce qu'il y a encore des cas qui sont identifiés dans les années 80. Oui.
J'ai beaucoup étudié les questions, mais plutôt dans la pratique du vaudou.
Oui.
Donc, plutôt de côté christianisme. Là.
Oui.
Et en fait, il me semble qu'ici, il existe une loi qui est passé et qui interdit justement ça.
Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement une loi qui est assez ancienne maintenant, parce que dans mon souvenir, c'est les années 70, qui effectivement identifie donc dans, en République d'Haïti ces cas très spécifiques d'empoisonnement, parce que c'est vrai qu'il y avait un vide juridique en fait. Ça posait ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient empoisonnées, qui revenaient à la vie et qui pouvaient parfois être reconnues par leur famille, sauf qu'elles avaient été déclarées mortes. Et donc ça pose encore d'ailleurs un problème vraiment administratif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette personne ? Il y a eu un certificat de décès et elle n'était pas morte, elle a été empoisonnée. Oui, c'est Clervius Narcisse.
Oui, un paysan en fait qui avait été déclaré mort et 20 ans plus tard, ils l'ont retrouvé et bah oui, il était encore vivant en fait.
Tout à fait, c'est le cas emblématique effectivement parce que c'est le cas qui a été le plus documenté, Clervius Narcisse. D'ailleurs, le film de Bertrand Bonello, Zombie Child, retrace son histoire de manière un petit peu évidemment romancée. Oui, tout à fait, ça pose des tas de problèmes administratifs. Mais il se trouve que là, le zombie est en plus symboliquement quelque chose qui rejoue l'histoire de l'esclavage, puisque le vaudou haïtien a été, qui est cette religion syncrétique entre effectivement les rites catholiques et le vaudou de la zone du Dahomey, donc en fait c'est l'actuel Bénin. L'essentiel des esclaves déportés en Haïti venait de là. Et en fait, c'est un mode de résistance, le vaudou. C'est-à-dire que c'est une façon de faire croire qu'on est converti, parce qu'il y avait des conversions forcées, évidemment, et de continuer à pratiquer sa religion. Et il se trouve que le vaudou haïtien a eu une importance extrêmement marquée pendant la révolution haïtienne. Haïti a été la première république noire indépendante de l'histoire, puisqu'en 1804, ils ont acquis leur indépendance. Et le vaudou a une place extrêmement importante. D'ailleurs, les grands héros de la révolution haïtienne sont devenus des esprits du vaudou. Donc ils ont vraiment intégré cette histoire politique. Le zombie, donc, au départ, c'est l'esclave. C'est celui qui représente finalement l'espèce de dépersonnalisation, de désappropriation de soi. Justement en lien avec cette histoire de l'esclavage.
Et du coup, tu dis on rejoue l'histoire de l'esclavage, on pouvait zombifier des maîtres ?
On peut zombifier n'importe quelle personne dérangeante à partir du moment où on se met d'accord avec un sorcier qui pratique, qui connaît les mélanges. Enfin, en gros, c'est des sorciers chimistes, hein, parce que du coup, il faut quand même une maîtrise assez fine des dosages, parce que pour entrer rapidement dans les détails techniques, donc une fois qu'on a extrait cette neurotoxine du poisson globe, il faut la mélanger avec certains produits pour qu'elle puisse pénétrer via la peau. Donc généralement, elle est mise dans les chaussures. Mais il faut des produits irritants pour qu'elles passent dans les tissus. Donc en fait, ça peut être... c'est pas forcément... on ne zombifie pas les maîtres, on zombifie n'importe quelle personne gênante. Mais il se trouve que le vaudou a été une espèce de stimulant dans les révoltes, parce qu'une des plus grosses révoltes qui a marqué vraiment le début de l'insurrection qui mènera à l'indépendance, c'est la révolte de Bois-Caïman, qui était une énorme cérémonie vaudou qui marquait finalement une insurrection sociale, en plus d'être une cérémonie religieuse.
Du coup, là, on est à Haïti, et à ce moment-là, le zombie, c'est quelqu'un qui est présumé mort, mais qui en fait est vivant. Il est tout seul, il n'y a pas du tout d'histoire de contagion ?
Absolument pas, non, c'est pas contagieux, c'est juste que c'est une victime expiatoire, en quelque sorte, qui va être punie de quelque chose, et c'est un individu seul, dépossédé de lui-même, mais on n'est pas du tout... Par contre, la notion de mort-vivant, oui, parce qu'il est enterré et il est déterré après en secret par le sorcier à l'origine, le Bokor à l'origine de son empoisonnement. Et en fait, il est déterré, il est envoyé à l'autre bout d'Haïti, de l'île, et il est forcé à travailler, il peut même devenir... Enfin, il devient souvent l'esclave du sorcier lui-même. Il y a eu beaucoup de cas d'ailleurs de femmes zombifiées, violées par le sorcier qui l'avait zombifiée. Mais c'est un individu seul, ça devient beaucoup plus tard une masse.
Du coup, c'est ça qui nous intéresse, puisqu'on est en période de pandémie, de maladie. Comment est-ce qu'on passe de cette histoire d'une personne seule à une maladie qui se propage et qui prend le pouvoir sur des masses. C'est l'Occident qui apporte ça ?
Oui, alors ça, c'est une figure totalement occidentale. Et c'est quelque chose qui s'est stratifié progressivement. Le zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le truc décomposé, les viscères à l'air, la tronche arrachée, c'est en fait une stratification issue de plusieurs métissages culturels. Donc en 1929, il y a un voyageur, un écrivain voyageur, qui découvre Haïti et qui va écrire un livre qui s'appelle L'île magique, et c'est un Américain qui va rencontrer un certain succès aux États-Unis. Et c'est comme ça que ça passe dans le cinéma américain. Dans le premier film de zombies identifié comme tel, c'est White Zombie de Victor Alperin en 1932. Là, on est encore dans des zombies, donc c'est ce qu'on voit des zombies, c'est des masses laborieuses qui sont réduites en esclavage par un sorcier qui est joué par Bela Lugosi, hein, qui jouait déjà Dracula. Donc on est vraiment dans l'horreur de ces années de l'âge d'or hollywoodien. Et le moment où ça devient une masse, c'est avec Romero, on est en 68. Donc il y a eu quand même... Alors, il y a d'autres films qui représentent des zombies en groupe, mais la masse informe et dépersonnalisée qu'on connaît aujourd'hui, elle a vraiment... Le grand jalon historique, c'est celui de Romero, La nuit des morts vivants, où on voit débarquer de nulle part des morts vivants, donc les morts ressortent de terre, on ne sait pas pourquoi et on ne le saura pas. Et ils encerclent cette maison où sont réfugiés des gens qui ne se connaissent pas. Et finalement, c'est là aussi que naît l'idée que la vraie menace, ce sont moins les zombies que les personnes qui sont à l'intérieur de cette maison et qui finissent par se déchirer, voire s'entretuer. Et ça, c'est donc un double jalon historique, parce qu'on voit les zombies en meute, dépersonnalisés comme... Vraiment, c'est une espèce de pack, de meute. Et on a le thème de l'idée que la vraie menace, c'est moins les zombies que l'impossibilité des humains à collaborer, voire leur capacité énorme à s'entretuer.
Et surtout, ça se passe dans une zone sécurisée. C'est les petites banlieues calmes américaines. Et c'est là où on voit une menace arriver, qui est une menace intérieure, finalement.
Alors là, pour ce qui est du tout premier, ça se passe effectivement dans une petite ville de Pennsylvanie, comme tous les films de Romero, qui était de Pittsburgh et qui aime beaucoup, enfin qui a toujours aimé placer ses films dans cet environnement-là. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir et qui va s'amplifier même au XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, vous avez peut-être vu le remake de Zack Snyder donc c'était du coup le deuxième film de Romero, Dawn of the Dead, qui commence dans une petite suburb très chic, avec donc des petits pavillons, et c'est une petite fille zombifiée qui arrache la gorge de son père dans les 5 premières minutes du film. Donc on est vraiment dans cet environnement-là où c'est bon, le modèle américain, le modèle urbanistique et le modèle le way of life américain, en fait, et tout d'un coup bouleversé par le truc le plus mignon qui soit, c'est-à-dire une petite fille, et c'est de là la menace, en fait, émerge tout d'un coup de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas chez Romero, parce que la menace chez Romero, elle est toujours de l'extérieur, et ça, c'est vraiment un truc du 21e siècle. Tout d'un coup, le zombie devient moins une menace extérieure qui nous encercle, que tout d'un coup, le zombie, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est tout d'un coup quelqu'un qui va se transformer comme ça.
Est-ce qu'il y a des zombies parmi nous ? Visiblement, il y en a.
Donc c'est vrai que ouais, c'est vraiment une mutation du 21e siècle qui est intéressante à analyser, parce qu'on voit qu'il y a une grosse inquiétude sur l'ennemi intérieur, l'étranger qui sommeille dans chaque groupe et qui peut tout d'un coup se retourner contre nous. On voit toutes les angoisses là, liées au 11 septembre, parce que ça émerge vraiment de l'idée qu'il y a donc dans toutes les sociétés occidentales, des ennemis de l'intérieur infiltrés, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment un tournant qu'on observe à ce moment-là.
Du coup, on entend beaucoup parler de l'image du zombie qui serait la figure du consommateur. Romero, c'est les années 60, donc c'est juste après les années 50. Waouh ! Incroyable ! Et du coup, les années 50, c'est le consumérisme américain. Il y a ce côté effet de meute, en fait. On va tous faire les soldes comme des zombies envahissent des maisons.
Ouais, en fait, c'est un petit peu plus tard, même si c'est une stratification effectivement qui remonte aux années 60. C'est en 78, donc le Dawn of the Dead de Romero se situe dans un grand centre commercial américain. Et Romero a raconté en interview que quand il a vu se construire le premier grand centre commercial fermé, comme on en a maintenant en fait partout, je ne sais pas combien on en a au Mans d'ailleurs, mais beaucoup trop, il s'est dit, mais c'est quand même dingue ce truc. Et c'est là qu'est née l'idée de placer une histoire de zombies dans ce type d'espace. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'effectivement, on voit les zombies qui déambulent enfermés au milieu des stands de fringues, des choses comme ça. Et puis, il y a un moment donné où les rescapés, les survivants se parquent dans ce centre commercial après avoir un peu nettoyé. Et ils finissent, eux aussi, par déambuler dans les rayons. En fait, il y a une identification totale du zombie et du survivant. Qui montre bien en tout cas la critique du consumérisme délirant de l'Amérique de cette époque est vraiment très très explicite. Ça va changer un petit peu après, c'est vrai qu'il y a un temps comme ça, mais il y a toujours un pan. Au 21e siècle, c'est un peu moins net, c'est un peu plus clivé, parce qu'il reste des films de zombies très critiques, mais c'est vrai que c'est devenu un produit un peu mainstream où on perd cette dimension critique. Ça dépend beaucoup du format, en fait. Ça dépend beaucoup des types de production aussi.
Du coup, là, on a déjà vu du zombie qui raconte pas du tout la même chose. Le zombie haïtien raconte pas du tout la même chose que le zombie ennemi intérieur, qui raconte pas du tout la même chose que la meute consumériste. En fait, il y a une vraie variation dans le message du zombie entre World War Z, par exemple, pour donner un exemple récent, et La Nuit des Morts-Vivants. Ça raconte, c'est pas le même zombie. Il raconte pas, c'est pas la même figure en fait de menace.
Pas du tout, c'est même presque des figures antagonistes. World War Z, il y a cette scène, j'imagine si vous l'avez vu que vous vous en souvenez, où Jérusalem est entourée d'un mur et on voit tous les zombies qui se ruent sur le mur et qui sautent les uns par-dessus les autres. Alors déjà, ils courent très très vite dans ce film, ça c'est héritage de Danny Boyle, qui même si 28 jours plus tard n'est pas un film de zombies, parce que les gens ne sont pas morts. Donc ça, c'est un grand débat dans la communauté des zombie studies. Est-ce qu'on peut le considérer comme un... moi, je le considère comme un jalon parce qu'il a donné une nouvelle esthétique quand même à ces éléments-là. Pour revenir à World War Z, il y a vraiment cette figure de l'étranger envahisseur que moi, je trouve idéologiquement assez dérangeante. Mais c'est mon avis, c'est pas forcément très intéressant. Mais en tout cas, on a ça. Et on va avoir, par ailleurs, des films de zombies qui peuvent garder une portée politique beaucoup plus critique, beaucoup plus contre-culturelle, comme c'était le cas chez Romero. En termes de films, ça va être plus des productions indépendantes, des choses comme ça, mais on a vraiment les deux qui vont cohabiter au 21e siècle. Donc des grosses productions, World War Z a été très longtemps, il est peut-être même encore le film le plus cher jamais produit. 540 millions de dollars. C'est énorme. Quand on prend le premier Romero, donc La Nuit des Morts-Vivants, c'était 114 000 dollars. Il fait partie des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, La Nuit des Morts-Vivants, puisqu'il a engrangé quelques 30 millions de dollars alors qu'il en avait coûté 114 000. Et on retrouve, je trouve, dans les productions à petit budget, une portée critique beaucoup plus féroce, en fait. Beaucoup plus... On va vraiment aller titiller tout ce qui dysfonctionne dans nos sociétés. Alors qu'un film comme World War Z, quand on voit justement cette image très marquante des zombies envahisseurs, on est vraiment en plus flatté les peurs occidentales. Et il y a une autre anecdote qui n'en est pas vraiment une, en fait, qui me semble avoir son importance, c'est l'utilisation que Donald Trump a fait de The Walking Dead pendant sa première campagne en 2016. Donc 2016, c'est la saison 7 de The Walking Dead qui est diffusée. Saison marquante pour ceux qui l'ont vu parce qu'elle commence avec la mort de Glenn assassiné par Negan, qui est quand même visuellement un truc qui bouscule un petit peu. Et c'est par le biais de Cambridge Analytica, l'équipe de Trump a fait des études et a identifié que le fait que les gens qui regardaient The Walking Dead étaient plutôt conservateurs, c'était plutôt donc des gens soucieux de l'immigration, inquiétés par ça. Et donc il a diffusé ces clips de campagne pendant les pauses pubs de The Walking Dead. Et ces clips de campagne, c'est édifiant, il faut les voir, quoi. Il y a une continuité visuelle, c'est-à-dire qu'ils montrent des migrants dans le noir qui essayent de passer les frontières des murs et ils les présentent comme des zombies. Vraiment, visuellement, il met en continuité l'esthétique de la série et l'esthétique de ses propres clips. Donc il y a une utilisation, là, extrêmement xénophobe de cette série-là. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de la série, hein, mais il se trouve que là, il y a une opportunité. Et ça donne quand même à penser ce que la série fait passer comme idée, je trouve. peut-être un peu en creux sur l'ennemi, sur de qui on doit se défendre finalement.
La série Walking Dead, c'est un élément sur lequel tu as beaucoup travaillé en tant que tel. On a toujours cet ennemi extérieur avec le côté xénophobe de « ils vont vouloir rentrer à l'intérieur pour nous détruire et c'est pas bien ». Et ils attaquent différents modèles de société qui sont mis en forme saison après saison. En fait, chaque saison correspond à un modèle de société.
Alors, c'est à la fois... c'est pas forcément à chaque saison, je crois, un modèle de société, mais en tout cas, ils expérimentent tout le temps des modèles politiques différents.
Il y a un modèle politique à Alexandria, il y a un modèle politique dans la prison, il y a un modèle politique avec le gouverneur, il y a un modèle politique avec Negan.
Oui, il y a différents, en fait, mais ça renvoie la politique à quelque chose de complètement relatif. Il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire, bon, c'est le moment où Rick dit « c'est plus une démocratie, on arrête la démocratie, ça ne marche pas ». Et donc, finalement, c'est une constante expérimentation politique qui va dire « bon, bah, tel modèle n'a pas marché, on va essayer un autre, toi. Tentons la dictature
». Tiens, tentons la dictature, Clémentine. Pourquoi on ne tenterait pas la dictature? C'est une bonne idée.
Et en tout cas, c'est ce que dit la série en creux, finalement. C'est quoi? Tous les modèles se valent. Il y a eu un relativisme politique qui est en fait une dépolitisation. Ça, c'est lié vraiment au format de la série, qui est donc série fleuve, en plus une série avec des développements transmédiatiques, les jeux vidéo, série qui vient elle-même en plus du comics, des jeux vidéo, les web-séries, de spin-off. Donc on est dans un système monde vraiment potentiellement infini. Mais quand on est dans un système infini, la fin du monde n'a pas de fin. Et quand la fin du monde n'a pas de fin, il n'y a plus d'objectif politique non plus pour rétablir un semblant de civilisation ou un système qui fonctionnerait, sinon la série s'arrête. Et du coup, AMC ne fait plus de pognon si la série s'arrête. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc on va laisser les personnages comme ça tourner en boucle. Mais moi, je les comprends, les pauvres. On va laisser dans une relativité politique totale qui fait qu'on voit des personnages qui tentent un système politique démocratique. Alors c'est un peu moins vrai sur les dernières saisons, parce que dans les dernières saisons, ça ne fait que rejouer les mêmes scénarios tout le temps. C'est-à-dire que, peut-être même toute la série est un peu comme ça.
On va peut-être pas spoiler toutes les saisons non plus.
Non, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas un renouvellement scénaristique et narratif énorme. Bref, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas spoiler. Mais on retrouve toujours ce qui se passe depuis le début. Hein. C'est le groupe s'installe, ça a l'air d'aller mieux, on recrée une civilisation, puis un gros méchant qui arrive, et il fout tout par terre, et il faut recommencer. Et ce relativisme politique, il est finalement assez représentatif, d'après notamment le philosophe Jacques Rancière, du régime politique occidental. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une dépolitisation, ce qu'il appelle la post-démocratie, qui fait que la politique consiste simplement à ajuster des choix par rapport aux règles du marché. Et la politique, en tant que conflit, qu'opposition d'idées, que débat, a complètement perdu sa substance pour devenir une espèce de gestion du parc humain, quoi. C'est exactement ce que raconte The Walking Dead.
Et toujours sur Walking Dead, on met en scène avec ça d'autres types de menaces. Il y a un épisode marquant qui se passe dans une grange, où en fait c'est tourné comme un épisode où on serait coincé pendant un ouragan. Et en fait c'est une meute, une horde de zombies qui est à l'extérieur de la grange en train de taper. Là c'est le dérèglement climatique, le zombie, à ce moment-là.
Oui, effectivement, mais ça, c'est pas seulement le cas, je crois, de The Walking Dead. Il y a effectivement, le zombie peut être une métaphore d'énormément de menaces. Là, on a parlé de ce qui était perçu comme une menace par un certain pan des pays occidentaux. Mais le zombie peut être effectivement aussi, il l'a été dès les années 50. Son origine, c'était une guerre nucléaire. Parce que c'était l'inquiétude à ce moment-là de la guerre froide. Il est effectivement une métaphore aussi du dérèglement climatique. Et il est, depuis le début du XXe siècle, particulièrement quelque chose qui était plutôt épisodique avant, mais qui est devenu systématique. C'est toujours un virus. Enfin, c'est toujours une maladie qui se transmet. Alors que les zombies chez Romero, ils débarquent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ils viennent. Et ce n'est pas le problème, en fait. Alors que maintenant, il y a toujours, ça commence avec Resident Evil, c'est aussi le cas dans 28 jours plus tard, et c'est systématiquement quelque chose qui se transmet. Donc cette angoisse de la viralité qui nous parle particulièrement ces derniers temps, Et d'ailleurs, il y a eu plein de mimes, de choses comme ça, pendant, au début de la pandémie, sur... Vous voyez, c'est le grand soir zombie, en fait. Bon, sauf que tout le monde s'est rué pour acheter des paquets de PQ. C'était un petit peu décevant, comme fin du monde. Il y a quelqu'un ici qui veut qu'on rembourse la fin du monde. On n'a pas du tout eu celle qu'on voulait, quoi. Et donc, ouais, au XXIe siècle, ça va devenir quelque chose qui est vraiment lié au virus. Mais ça peut être aussi, effectivement, il y a cet épisode que tu citais, qui est d'ailleurs plutôt bien réalisé sur une espèce d'ouragan et quelque chose qui peut faire penser à Katrina, qui peut faire penser à des véritables catastrophes climatiques. Ouais.
Il y a beaucoup de zombies partout dans les médias, dans la pop culture, il y en a de plus en plus. Mais en même temps, c'est ce que tu disais, il y a de plus en plus de craintes, que ce soit des craintes politiques, que ce soit des craintes climatiques. Il y a tous ces trucs-là qui se répandent. Et il y a aussi le dernier truc de contamination, c'est les sales idées, en fait, qui peuvent se répandre. Il y a, notamment dans un film que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Pontypool, une invasion zombie qui se transmet par les idées, par les mots, simplement.
Je vais faire un petit sondage. Qui a vu Pontypool ? Voyez Pontypool, c'est génial. Film à petit budget, hein, puisqu'il a coûté 1,5 million. Un four, un bide total au cinéma. Il a engrangé 40 000 $. Hein. C'est catastrophe, mais un gros succès après.
Et du coup, l'histoire de Pontypool, c'est une maladie zombie qui se propage uniquement par le langage. Et le film se passe dans une station de radio qui doit donner l'alerte. Donc plus il donne l'alerte, plus il propage la maladie. Et du coup, comment tu fais pour transmettre des signaux quand c'est la sauvegarde qui est le vecteur de contamination?
Et c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand on essaye de débunker une fake news sur les réseaux sociaux, on la propage. Et c'est le film de 2008, hein, on est avant la création de Twitter, très très inspiré, Bruce McDonald, donc petite production canadienne. Et c'est souvent dans ces petites productions-là, je trouve, enfin moi en tout cas, de tout le corpus zombie que je parcours, c'est toujours quand il n'y a pas de fric, qu'il y a des idées en fait. Mais ça, on pourrait l'étendre évidemment bien au-delà des zombies. C'est le cas aussi d'ailleurs dans une série anglaise, britannique, du début, enfin pareil, à peu près de la même époque, puisqu'elle est de 2009, Dead Set, qui est génial. Mini-série, 5 épisodes, méga efficace. Ça se passe dans un studio de télé-réalité, je vous en dis pas plus, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, et qui est vraiment, vraiment assez incroyable.
On fait un petit pas de côté. Le langage virus, c'est ton sujet de doctorat, c'est ta spécialité.
Ouais, parce que j'ai travaillé sur un auteur qui s'appelle William Burroughs et qui a imaginé dans ses romans, et c'était vraiment une théorie par ailleurs, hein, c'était pas seulement un motif littéraire pour lui, que le langage était un virus. C'est-à-dire, alors il le prend comme métaphore du fait que l'information finalement se diffuse de manière virale. Il théorise ça dans les années 60, hein, on est bien avant le fait que l'information devient vraiment virale. Et donc, il met en place tout un processus de destruction du texte par découpage, justement pour casser le langage virus. Et j'ai retrouvé une interview récemment, justement pour préparer ce moment d'échange-là, du scénariste de Pontypool qui dit que non, ça n'a rien à voir avec William Burroughs, on lui a souvent fait la remarque. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez familier avec cette idée d'un langage qui serait... un vecteur de viralité, avec justement la manière dont comment des mots deviennent à la mode, comment des éléments de langage se propagent par les médias, par nous aussi, parce que justement on est infecté, tu passes une journée à regarder BFM TV, au final il y a des mots qui vont filtrer. Oui, faut éviter, hein, faut se mouiller la nuque avant, parce que mais si on veut faire une expérience, je suis persuadée que même en totale conscience qu'on est en train de regarder une chaîne d'infos en continu, il y a forcément des trucs qui filtrent. Et c'est vraiment l'histoire de Pontypool, mais métaphorisée et à une exponentielle en fait, de ce principe-là.
Le zombie, finalement, du coup, c'est l'incarnation des menaces de l'autre. Simplement, c'est l'autre en fait, le zombie. C'est l'autre individu de la société qui nous veut du mal.
Alors, les productions à succès occidentales ont cette tendance-là. Après, il y en a beaucoup d'autres. Et comme le zombie s'est répandu dans le cinéma international...
Là aussi, il s'est répandu, le zombie. Il se répand partout, en fait.
Ah c'est... oui, c'est, pour le coup, ils ont vraiment envahi le monde, hein, là-dessus. il va pouvoir être utilisé aussi. C'est pas forcément l'autre, c'est nous. Parce qu'un zombie, c'est quoi si ce n'est un ancien nous ? Et c'est ça qui est très... À mon avis, c'est aussi l'explication de son succès. C'est qu'on se voit en autre dans le zombie. Et que du coup, quand on aime bien défoncer du zombie en jeu vidéo ou regarder des zombies se faire défoncer au cinéma ou dans des séries, il y a quelque chose à la fois d'une pulsion destructrice, parce qu'on a envie quand même que... Je pense, en tout cas, il y a pas mal de gens qui l'analysent comme étant un envie d'un espèce de grand soir, de tout foutre par terre, en fait, et de recommencer. Et puis, il y a aussi quelque chose d'une autodétestation, mais pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de tout ce qu'on voit dysfonctionner dans nos civilisations, tout ce qui nous dérange dans notre culture. Donc, c'est l'autre, c'est nous, et ça peut être aussi l'incarnation des grandes menaces qui pèsent sur la période contemporaine.
Et c'est l'occasion aussi de céder à nos bas instincts et de jouer la transgression tout de suite. Le zombie, il ressemble à un humain. Et dans le cadre de la lutte contre les zombies, c'est un humain auquel on est autorisé à faire du mal, qui est une transgression sociale.
Oui, parce que c'est vrai que déjà le zombie en lui-même, il transgresse un interdit fondamental, c'est qu'il est mort et vivant. Et ça, c'est quelque chose que notre cerveau... c'est très, très compliqué déjà d'envisager la mort, mais alors envisager cet état mort et vivant, donc il transgresse déjà ça. Ensuite, effectivement, la violence dans les films de zombies... Et je disais tout à l'heure que le zombie, en plus, tout décomposé, il arrive un petit peu plus tard. Il est surtout issu du cinéma européen. C'est notamment l'Italien Lucio Fulci qui va le représenter. Il est un des premiers à le représenter, vraiment en sortant de terre, tout décomposé, avec des vers, avec des trucs vraiment, vraiment crado. Et ça va progressivement devenir la représentation majoritaire. Donc il représente aussi cet interdit-là et ce devenir nous et ce truc qu'on peut librement qui nous permet à la fois de nous regarder mais en même temps de déchaîner notre violence. Et puis, et ça c'est Max Brooks qui le dit, Max Brooks qui est l'auteur du livre, du roman World War Z, qui est vraiment un super roman, ne pensez plus au film, lisez ce roman, il est génial, et qui a aussi écrit un petit livre très drôle qui est Guide de survie en territoire zombie, qui dit, finalement le zombie il est gérable, on peut tirer une balle dans la tête du zombie, on peut pas tirer une balle dans la tête du réchauffement climatique, on peut pas tirer une balle dans la tête d'une marée noire, mais le zombie, on peut. Donc finalement, c'est une menace qui peut paraître horrible et complètement contre nature, mais on a, je pense que ce qui fait son succès, ce qui fait qu'on aime bien regarder des films de zombies, c'est qu'au moins, on se dit quand on regarde un film de zombies, enfin je sais pas vous, mais moi je me dis que je pourrais survivre. Je suis pas sûre de survivre au réchauffement climatique en revanche.
Oui, t'as le mode d'emploi pour détruire le zombie finalement.
Je reviens à ce que vous disiez sur l'Italien qui a fait ce film. On sait que dans les pays de l'Est, il existait des sortes de morts vivants qui étaient justement décomposées parce qu'elles étaient enterrées par leur famille et qui se relevaient, sans pour autant avoir été zombifiées à la haïtienne. Donc est-ce qu'on peut penser que ça viendrait de ces monstres existants dans le folklore des pays de l'Est ?
Il existe des morts vivants dans toutes les traditions, en fait. C'est quelque chose de très, très répandu. Et effectivement, dans ces processus de métissage, on va voir, par exemple, que les Coréens, qui ont aussi une grande tradition du culte des morts, etc., vont se le réapproprier. Je pense que vous avez vu peut-être Dernier train pour Busan. Et en fait, oui, parce qu'en fait, il y a une capacité d'appropriation de cette figure qui est universelle, parce qu'elle transgresse un truc universel qui est la mort, qui fait que, bien évidemment, oui, moi je parlais de Fulci, ça se métisse vraiment. En plus, c'est le cinéma, donc c'est en 73 qui sort son film. C'est l'Italie des années de plomb, une grande vivacité du cinéma d'horreur en plus en Italie à ce moment-là, et en plus la culture catholique. Et donc, en fait, oui, ça fait revivre un peu toutes les traditions des morts dans les pays. Il y a plein de pays qui reprennent ça, chacun à leur manière. Donc, oui, tout à fait pour le culte, la tradition des pays de l'Est, oui, ça semblait assez évident.
C'est surtout qu'en fait, il y a eu beaucoup d'écrits, plus dans les pays de l'Est, et à l'époque, en fait, on avait beaucoup de traités avec la Chine, des échanges marchands et autres. Excusez-moi, on a eu des échanges marchands avec la Chine pendant très longtemps, on a retrouvé la route de la soie et autres, mais Corée, Japon et autres, on n'avait pas tellement d'échanges. En tout cas, on n'avait pas des textes relatant ces échanges. Donc je pense vraiment que ça vient vraiment des pays de l'Est. guillemets. Après, j'ai vu aussi Dernier Frère Poussin, pour revenir sur tout votre exposé. J'ai vu le contraire de vous. J'ai vu un court-métrage sur les zombies contre le racisme.
Ah, mais ça existe aussi, heureusement.
Je l'avais vu et ça m'avait fait beaucoup rire. C'était vraiment un court-métrage qui était vraiment...
Mais du coup, un court-métrage, on est plus dans la logique contre-culturelle. Et ça aussi, ça existe. Ben voilà le petit budget. Et c'est là, en fait, qu'on va trouver. Mais oui, bien sûr. Et il en existe des tas d'exemples, en fait. Mais c'est plus Hollywood. En passant le zombie dans le mainstream, pour le passer dans le mainstream, va utiliser des idées un peu simplistes et exploiter les peurs, en fait, plus. Et dans des choses plus confidentielles, voilà, le cours, des petits budgets, des choses comme ça, c'est là qu'on va trouver, justement, de la contre-culture politique et de la lutte politique, comme c'était le cas à l'époque de Romero, finalement.
Bonjour, merci. Merci pour cette conférence qui est... j'avais une question pour reparler de la... de ce que vous disiez tout à l'heure sur... On n'entend rien. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la fin du monde, donc la dernière intervention avant, je voulais repartir de ça et vous poser la question sur est-ce qu'il n'y a pas une émergence aussi d'une figure d'espoir autour du zombie, par exemple dans les films comme celle... Enfin, dans le livre, pardon, comme celle qui a tous les dons, ou la série Citizen Z, où finalement le zombie est porteur d'une nouvelle société, d'un monde d'après. Voilà, et est-ce pas ce développement, et du coup, est-ce que j'ai envie de dire dans notre et est-ce que cette émergence a un lien avec le fait que la pandémie aujourd'hui, enfin la réutilisation du terme le monde d'après qui a été très utilisé en 2020 et qui finalement n'a pas abouti, est-ce qu'il y a un lien ou pas?
Alors c'est vrai que merci pour cette question, parce que il y a encore une des mutations du zombie qu'on voit apparaître depuis bientôt quand même 20 ans maintenant, au moins 15 ans, qui est la réhumanisation du zombie. On va le voir y compris dans des petites séries marrantes ou des comédies comme Fido, où le zombie est à nouveau doté. En fait, il a son identité, son humanité sont restaurées. Et du coup, dans ce cas-là, il peut être porteur d'espoir, effectivement, d'une société qui se reconstruit après la catastrophe en intégrant sa contradiction. Où il y a celle qui a tous les dons, effectivement. Il y a la série The Nation, qui est délicieusement série Z. Mais il y a vraiment des trucs chouettes dans cette série, qui aussi cherche... Alors, je vais pas expliquer comment elle finit, mais qui cherche à restaurer. Donc, c'est porteur d'espoir, c'est-à-dire que c'est souvent le cas dans les histoires de fin du monde ou dans les dystopies. Il y a toujours une part d'utopie qui guide le truc. Alors, ça échoue parfois, ça marche pas toujours, mais l'idée qu'on peut... En tout cas, qu'on doit essayer collectivement de reconstruire une société. Et ça, on le retrouve dans pas mal de films et de séries. Ouais.
Il nous reste une dizaine de minutes avant de prendre votre question. On a, puisqu'on est sur l'évolution du zombie, on a aujourd'hui des produits de pop culture où le zombie gagne.
Oui, mais je peux pas dire lesquels parce que sinon je spoil.
Ah ouais, merci pour le conseil sur World War Z, mais alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Wow, c'est quoi ?»
Ah non, je parlais du livre.
Oui, mais en fait, j'ai fait « C'est quoi ce nanar ?» Et en fait, si on regarde quand même assez particulièrement certaines scènes, il y en a qui sont très intéressantes, notamment la critique par rapport à la Corée du Nord, où que ce qu'ils font pour se protéger, c'est « casse les dents de tout le monde ». Donc là, on est bien sur la critique de la dictature de la Corée du Nord. L'acceptation du handicap, quand on voit que finalement le moyen de lutter contre le virus que trouve Brad Pitt, c'est en fait de remarquer que les zombies ne s'attaquent pas aux personnes handicapées, que ce soit physique. Y a en fait rien que le film, si on le regarde deux, trois fois, mais en fait c'est South Park, il donnait de le re-regarder à nouveau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez South Park, mais eux, ils ont quand même 4 ans d'avance. Ils ont... South Park. Ils ont quand même déterminé l'élection de Trump avant 2 ans avant que ça se passe. Et donc, il y a le fameux Cartman qui fait une parodie World War Z, qui m'a donné envie de le regarder à nouveau. Et pareil, l'invasion du mur, on peut le voir aussi comme le mur de protection, que ce soit contre le Mexique, qu'a construit Trump, ou aussi l'antisionisme, enfin les Palestiniens qui sont chassés de Jérusalem par la construction du mur. Il y a quand même une double lecture qui est quand même pas assez intéressante. Après, on va pas revenir sur les classiques comme 28 jours plus tard, qui ont eu 20 ans d'avance finalement quand on voit la pandémie et qu'on a vu les premières images de Grande Capitale. Enfin, Danny Boyle, c'est Danny Boyle, c'est magique. Hein. Et même 28 jours plus tard d'eux, avec Robert Carlyle, Jeremy Renner, il y a quand même d'excellentes scènes qu'on peut voir, avec notamment les hybrides, avec les yeux verrons. Et toutes ces choses sont vraiment très intéressantes si on s'y penche vraiment.
Absolument, et sur l'idée qu'ils ont 20 ans d'avance, alors moi je ne dirais pas forcément tout à fait comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand on les revoit qui semblait assez, assez visionnaire. Il y a aussi le fait que nous avons vu ces films et que notre réaction aux événements est informée par cet imaginaire-là. Et c'est... Le réel et la fiction ne sont pas ni strictement à opposer, ni strictement à hiérarchiser. Ce qui nous amènerait à dire qu'un film a de l'avance ou est visionnaire, c'est que les deux s'informent mutuellement. Ce qui fait que nous, quand on a vu arriver la pandémie, on a tous pensé, surtout quand on aime la SF, à tous les films catastrophes et tous les films post-apo qu'on avait pu voir. Quoi. Enfin, je pense que personne n'a échappé à cette tendance quand on est fan de ce genre de fiction. Et particulièrement pour les zombies. Et on l'a vu en ligne, ça ironisait beaucoup là-dessus. Et en même temps, est-ce que notre gestion collective ou notre appréhension collective de cet événement-là ne nous a pas aussi été quelque part soufflé par toutes les fictions qui ont créé cet imaginaire-là? C'est très difficile de le déterminer, mais voilà, c'est deux choses qui s'alimentent mutuellement. Mais oui, je parle. Alors pour le film, il faudrait peut-être que je...
Ouais, tu l'as peut-être pas assez vu le film, en fait, finalement.
Ouais, va falloir que je le revoie.
Une petite question très simple. Est-ce que le mythe de la créature de Frankenstein de Mary Shelley a été conçu sous influence de la culture zombie, justement? Ou est-ce qu'il ne l'a pas amené vers... n'aura-t-il pas influencé ce mythe de la créature morte et vivante en même temps?
Complètement. Oui, justement parce que... Particulièrement parce qu'au moment où le zombie passe dans la culture américaine dans les années 30, c'est les décors de Frankenstein ont été repris pour White Zombie d'Alperin. Bela Lugosi joue Dracula. Enfin, donc, du coup, complètement, les premiers zombies qu'on voit au cinéma dans les années 30 aux États-Unis sont vraiment des zombies issus d'un métissage entre les histoires qui se racontent à propos d'Haïti et le gothique. Le gothique anglais en particulier, ouais, complètement. Et ça le reste très longtemps en plus. Hein. Ça le reste encore jusqu'à la fin des années 50. Il y a toujours cette idée du Frankenstein, effectivement, de la créature, en fait, de la créature. C'est-à-dire créée par un maître, du maître qui va diriger le zombie. Ouais, ça, tout à fait.
Moi, je vais finir dans le public à écouter la conférence. Ce sera beaucoup plus simple, finalement.
Juste pour. C'est super intéressant ce que vous veniez poser comme question. Surtout que je ne sais pas si vous savez, mais. Frankenstein a été écrit dans un moment de mouvement social qui est la révolte des canuts et qui est justement cette révolte contre cette machine qui mange la place de l'homme.
Où est-ce qu'on en était? Il y a une grosse évolution, on parlait de Romero principalement, Romero c'est le maître étalon de la pop culture zombie. Même dans la vision que Romero a du zombie et de la façon dont il la met en scène, il y a une réelle évolution au fur et à mesure de sa filmographie. Il ne met pas en scène à chaque fois le consommateur.
Non, il le met ça. En fait, c'est comme si à chaque film, il explorait une facette de la manière dont il peut utiliser le zombie pour parler des problématiques, des fractures de la société américaine. Il y a dans son Land of the Dead de 2004. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en 2004. Donc, il sort en 2004, au moment où la vague zombie repart. Donc oui, il commence à y avoir pas mal de films. Donc c'est intéressant de voir le maître qui a inspiré tout ça se replonger, se remettre à l'ouvrage en quelque sorte. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, les zombies se révoltent contre la haute finance. En fait, les zombies se révoltent contre les humains et les humains se révoltent contre une société de caste dirigée par un espèce de mafieux qui dans un ghetto de riches, et que les révoltés du ghetto, les humains révoltés du ghetto et les zombies font quasiment cause commune. Il y a un parallèle très très intéressant là-dessus, et là on retrouve le grand Romero, je trouve, vraiment qui nous montre toutes les aberrations du capitalisme, toutes les aberrations et toutes les fractures sociales américaines. Donc il traite à chaque fois une vision différente. Dans Diary of the Dead, ça va être plus sur la culture de l'image, les réseaux sociaux. C'est des jeunes qui ils vivent une apocalypse zombie et leur seule obsession, c'est de filmer. C'est exactement ce qu'on a pu voir quand, au beau milieu d'attentats ou de situations de catastrophes, les gens continuent à filmer au péril de leur vie, quoi. Et cette espèce de pouvoir des images, il faut produire des images tout le temps. Mais Romero, il avait une capacité de renouvellement de son propre modèle que je trouve assez remarquable par rapport à d'autres cinéastes qui vont au contraire un peu patiner à un moment quand ils créent un modèle.
Et on voit au cinéma que le zombie peut commencer à être accepté dans The Land of the Dead, où il y a un sniper qui laisse finalement partir un zombie, il finit par lui laisser la vie.
Ça a un mini spoil, mais effectivement il y a cette petite scène, ça n'enlève rien de nos plaisirs, si vous l'avez pas vu, au plaisir du film je pense, mais ça se termine effectivement le personnage principal qui dit à son collègue qui est sur le point, qui en joue le chef des zombies. Le chef des zombies, c'est un pompiste, il est toujours en tenue de travail, et on le voit d'ailleurs à un moment casser sa pompe à essence, il casse son outil de travail, il casse son outil d'aliénation en fait dans cette scène. Et à la fin, effectivement, les humains les laissent partir, on voit la meute de zombies s'en aller, et finalement il lui dit il cherche un endroit où aller comme nous. Donc il y a vraiment ce parallèle là entre la condition ouvrière et la condition du ghetto et celle des zombies.
Du coup, on a une société qui commence à finir par accepter le zombie, et on va dans Army of the Dead de Snyder, qu'il faut pas voir, on a tous autre chose à faire de nos heures, mais il y a une vraie société zombie. Ils sont hiérarchisés, il y a un couple dominant, et finalement c'est deux modèles sociaux qui vont s'affronter, une société humaine hiérarchisée et une société zombie de l'autre côté de Las Vegas, quoi.
J'avoue que je l'ai pas vu, parce que c'est vrai que déjà le Dawn of the Dead de Snyder m'avait un petit peu... Donc je me suis dispensée de ça. J'ai pas fait mes devoirs, c'est pas bien. Mais en fait, ce qu'on peut observer, c'est que il y a beaucoup de fictions aussi où ils vont penser, au contraire de l'opposition, à la cohabitation. Ça devient même quelque chose d'assez régulier dans des séries et des films. Donc la possibilité, finalement, de faire société avec l'altérité totale qu'est le mort-vivant, qui pourrait représenter un autre... irréductible, et qui finalement là, en fait non, avec cet autre irréductible, on arrive à cohabiter, on arrive à s'organiser.
On est un peu pris par le temps, je vous propose qu'on finisse des questions hors du plateau. Juste par rapport aux zombies, on a un peu fait le chemin à l'envers en fait. Au départ, le zombie, c'est une créature solitaire qui doit éliminer des humains pour se libérer. Finalement, aujourd'hui, c'est un humain solitaire qui doit éliminer une société, deux zombies pour se libérer. On a les mêmes mots dans le désordre, finalement.
Un peu, ouais. C'est un humain, en tout cas, qui, dans les grandes productions, on le voit toujours revenir à une forme de solitude, ou en tout cas au noyau familial. Mais en fait, si on prend peut-être le fil rouge entre tout ça, ça parle toujours de nous et des autres, de nous par rapport aux autres, de nous comme groupe par rapport à d'autres groupes. Donc on retrouve quand même quelque chose qui, même s'il y a d'énormes mutations dans les représentations, se configure autour de cette question de cet autre qui est nous, qui est le mort-vivant, quoi.
Pour poursuivre la réflexion sur tout ça, tu as sorti deux bouquins sur les thématiques qu'on a abordées. Le premier, ça s'appelle « La pandémie dans la science-fiction ». Et qui parle donc de la pandémie dans les science-fiction. Et le deuxième, c'est SF Machine, qui est consacré à William Burroughs. J'arriverai jamais à le dire. Hein, voilà. Et du coup, qui est l'auteur qui théorisait le langage virus. C'est donc deux bouquins signés par Clémentine Hoog. Merci de nous avoir suivis. On n'entend pas les applaudissements avec tout le bruit de la scène, c'est dingue. Hein. Merci du coup d'avoir suivi cette conférence.
Merci beaucoup.
Et c'était un plaisir de vous avoir, voilà, sur le plateau de Geek Life. Merci à tous.